Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, votre podcast 100% polar de Bipolar. Et vous le savez, avec Jérémy, on se balade souvent dans les filmographies polar, thriller, épouvante, un peu de culture polar. Bonjour Jérémy.
Salut Jérôme.
Et aujourd'hui, tu vas nous raconter la formidable saga de REC. Alors, le premier film espagnol hein, de 2017, on évoquera peut-être les suites, mais pourquoi est-ce que tu as choisi ce film-là, film d'horreur, film d'épouvante?
Bah, parce que c'est un des grands jalons de ce sous-genre du film d'horreur qu'on appelle found footage, dont on peut dire quelques mots. Donc found
Ouais.
footage, littéralement image trouvée. Dont le dispositif est toujours le même, hein, c'est-à-dire qu'on a une caméra intradigétique, au sens où en littérature on parle de narrateur intradigétique, c'est-à-dire qui fait partie de l'histoire. Donc c'est une caméra qui est intradigétique, qui donne le point de vue de l'action, ce qui participe évidemment du caractère immersif du film d'horreur, et c'est ce qu'a toujours recherché le cinéma d'horreur. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment on cherche toujours à immerger le spectateur, la spectatrice. Et finalement, le found footage n'est que l'actualisation du dispositif de caméra subjective que les fans de slasher connaissent bien, mais que les fans de films d'horreur plus généralement connaissent bien aussi.
Ouais, l'idée, c'est d'être vraiment à hauteur de personnage, hein. C'est un procédé qu'on connaît bien. Mais alors, pourquoi est-ce que ce REC, peut-être que tu vas nous dire un petit mot de l'histoire, mais pourquoi est-ce que ce REC, on s'en souvient, il y a eu trois suites, hein, jusqu'à un REC 4. Qu'est-ce qui a fait sa différence? Je me souviens, on parlait de Blair Witch, du projet Blair Witch ensemble. Tu nous parlais de l'ambiance, de la forêt, de cette caméra troublée. Qu'est-ce qui fait que REC est resté dans les annales?
Bah, comme tu le dis, on ne peut pas s'empêcher de penser à Blair Witch, qui est une sorte de matrice, même si on pourrait remonter plus loin. Est-ce que Blair Witch est le premier found footage? Bon, ce serait un peu trop long d'en parler. Alors, qu'est-ce que REC apporte au genre du found footage, qui est quand même très populaire dans ces années-là? On est dans les années 2000, et s'il y a bien des années qui sont les années found footage, sont bien ces années-là, cette décennie-là. Bah, déjà, il faut évoquer le pitch, hein, qui est très simple. On a une équipe de télévision espagnole, c'est une équipe de télévision qui effectue un reportage dans une caserne de pompiers pour voir comment vivent ces professionnels. Donc, c'est différent par rapport au projet Blair Witch, hein. C'est une émission de télévision. Donc, il y a en filigrane la manière dont la télévision va traiter de l'actualité. Et puis, on pense aussi à la télé-réalité. Ce sont les grandes années de la télé-réalité, enfin, c'est-à-dire les années où vraiment c'est un format télévisuel qui va devenir très populaire. Et REC a cette qualité de nous faire réfléchir sur le voyeurisme, jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on est prêt à montrer, et sachant qu'on a une caméra qui tourne et qui ne cesse de tourner, quels que soient les événements.
Ouais, ça veut dire que parfois même elle tombe par terre, cette caméra, et elle continue à tourner. Ça, c'est génial parce que du coup, on voit pas, on entend surtout. Et évidemment, ce qu'on voit pas nous fait surtout peur.
C'est ça, et Blair Witch l'avait déjà compris, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous fait peur, c'est beaucoup plus ce qu'on imagine que ce qu'on voit. Ça, c'est vraiment je dirais la base de la réflexion quand on cherche à faire peur à travers l'écran. Et REC reprend ce dispositif et va même le complexifier, va aller plus loin encore que Blair Witch en montrant, mais en même temps en faisant entendre des sons au moment où ces sons sont particulièrement terrifiants. Comme tu le disais, on a une caméra qui tombe, une caméra qui continue de tourner, on a des cuts et puis ça reprend. On a de longs plans séquences aussi, c'est intéressant de le dire. Ce qu'on n'avait pas forcément dans Blair Witch, qui était beaucoup plus haché au niveau du montage. Et ça, c'est vraiment c'est très intéressant par rapport à la configuration des lieux, parce que ce qu'il faut dire aussi, et là on peut avancer sur l'histoire et sans trop en dire non plus, ces mêmes pompiers que suit cette équipe de télévision vont être appelés pour un intervention dans un immeuble et suite à un appel des résidents qui ont entendu les cris d'une voisine, laquelle voisine ne s'avère pas très amicale, c'est le moins qu'on puisse dire lorsque les pompiers arrivent avec les policiers. C'est une vieille femme qui s'appelle Conchita et qui va littéralement sauter à la gorge de l'un des personnages sous les yeux de la caméra qui tourne, puisque comme on l'a dit, la caméra ne s'arrête jamais. Et donc à partir de 10 minutes, le film est lancé et on a aussi, surtout par rapport à Blair Witch, un rythme qui est complètement effréné. C'est-à-dire que, on pourra en reparler, mais le film est très court, dure 1 heure et quart, mais je ne sais pas si on aurait pu tenir sur un tel rythme pendant 2 heures. Et je pense que c'est plutôt malin d'avoir arrêté ce film au bout d'1 heure et quart, ce qui n'est pas un très long film finalement.
En plus, il y a un plan séquence de 22 minutes. Alors, en termes de cinéma, c'est un petit exploit. On n'a jamais de plan séquence aussi long. Enfin, en tout cas, on en a, mais c'est très rare. Là, on est vraiment avec les personnages, parce que 22 minutes, ça bouge dans tous les sens et on est avec eux, quoi. Il n'y a pas de temps mort.
Voilà, alors c'est pas facile de faire un plan séquence pendant 22 minutes, effectivement, ça oblige à organiser tout un dispositif. Et là, c'est le moment aussi de parler des acteurs et des actrices, parce que quand on a un dispositif aussi long et que des personnages doivent tenir sur la durée, eh bien, on est obligé d'organiser quelque chose qui participe d'ailleurs de la valeur immersive de ce film. C'est-à-dire que ce qu'il faut rappeler, c'est que les acteurs et les actrices qui ne sont pas des très connus, mis à part le personnage principal qui est joué par une animatrice de la télévision espagnole, on pourra en parler, ces personnages-là n'avaient pas les éléments du scénario. Donc, découvraient vraiment au moment du tournage ce qu'ils allaient faire. Et il y a une grande part qui est laissée à l'improvisation. Je pense que c'est décisif par rapport à des plans séquences qui sont si longs et pour lesquels la part d'improvisation peut être importante et participe aussi d'une forme de spontanéité, parce que c'est un film qui joue sur la spontanéité, des réactions et qui sont des réactions affolées, comme on peut l'imaginer, évidemment.
Ouais, c'est l'occasion de parler aussi des deux réalisateurs. Alors, c'est rare d'avoir deux réalisateurs pour un film. Hein. Souvent, on en a un seul qui impose sa vision. Alors, je vais essayer de pas écorcher leur nom. Hein. C'est Jaume Balagueró et Paco Plaza. Et il est noté qu'ils avaient recherché justement des acteurs peu connus et plutôt doués en improvisation pour les aider à faire ce film-là.
C'est ça, voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que la grande part d'improvisation repose sur le jeu des acteurs et sur leur capacité à s'immerger dans des situations qu'ils ne connaissent pas à l'avance et à être donc dans des incarnations beaucoup plus concrètes et beaucoup plus réalistes plutôt que de réciter une partition. Et c'est plutôt bien réussi de ce point de vue-là. On a juste l'actrice principale qui s'appelle Manuela Velasco, qui joue la présentatrice Angela Vidal, qui est comme je le disais, une animatrice de télévision au départ. Alors, évidemment, c'est intéressant parce que ça pourrait être aussi toute une thématique. Ces animateurs, ces animatrices, surtout les animatrices, on pense à Virginie Efira, qui a d'abord été animatrice et qui a embrassé une carrière d'actrice avec beaucoup de succès, comme on le sait. Et donc, c'est intéressant d'immerger aussi une femme qui est connue dans un autre domaine d'activité et de lui faire vivre une autre expérience. Ces deux réalisateurs l'avaient repérée sur une émission, à travers une émission qu'elle animait sur Canal Plus Espagne. Et puis, donc, ils lui ont proposé ce film-là avec d'autres acteurs et d'autres actrices. Et le résultat est quand même plutôt convaincant.
C'est le moment de parler un peu de l'Espagne. Le fait que ce soit un film d'horreur espagnol, alors est-ce qu'il y a une filiation, enfin pas une filiation, mais est-ce qu'il y a une filière de films d'horreur en Espagne?
En tout cas, s'il n'y en a pas eu pendant longtemps, pour des raisons qui sont des raisons politiques aussi, hein, il faut rappeler quand même que l'Espagne
Bien
a vécu
sûr.
pendant des décennies sous la dictature franquiste, ce qui a complètement refermé le pays, ce qui a aussi eu un impact sur la production artistique, sur l'exportation de cette production artistique. C'est un cinéma qui était évidemment très connu, on pense à des grands réalisateurs comme Buñuel. Mais c'est un cinéma qui a commencé véritablement à s'exporter à la fin des années 70, début des années 80. Franco meurt en 1975, et donc ça donne plus de liberté, et puis ça permet aussi à des créateurs, des créatrices de se faire beaucoup plus connaître à l'international. Donc est-ce qu'on a quand même un cinéma qui est jeune, quand on sait que l'histoire du cinéma n'est pas une histoire très ancienne, et quand on sait que la dictature franquiste a duré des décennies, c'est quand même un cinéma qui s'est révélé sur le tard. Et dans cette mouvance-là, on a eu effectivement ce cinéma fantastique qui a émergé. Et qui a émergé à partir des années 80. Voilà, il y a des petits films qui ont commencé à se faire, qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Et puis, REC a rendu plus visible ce cinéma d'horreur, qui plonge aussi ses racines dans un malaise. Et là aussi, ça documente, comme tout le cinéma d'horreur, hein, il y a une dimension culturelle, il y a tout un inconscient qui est un inconscient collectif. Que nous dit le cinéma d'horreur sur l'inconscient collectif d'un pays? Ça vaut pour l'Espagne, ça vaut pour n'importe quel pays, ça donne du fantastique qui est aussi à la mesure de ce que peut être, je dirais, la configuration sociale, politique, culturelle du pays. En tout cas, à partir de REC, oui, il y a un cinéma qui va émerger, et puis après, d'autres films d'horreur espagnols qui vont cette fois-ci être internationalement diffusés.
Et je rappelle qu'il y a un film qui s'appelle Les Révoltés de l'an 2000, dont nous avons parlé ensemble, effectivement, qui est espagnol aussi, et puis vous retrouverez facilement le lien de l'émission. Film particulièrement rentable, alors le found footage, on se souvient que le projet Blair Witch avait été fait avec trois bouts de ficelle, il avait rapporté énormément, et puis bah là c'est un peu pareil. Alors le budget est plus gros, hein, 1 500 000 euros, mais il a rapporté plus de 32 millions d'euros, donc les producteurs se sont frottés les mains. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cinéma peu de moyens, pour peut-être certains films, pas peut-être pour tout, mais qui rapporte gros?
Oui, bah c'est aussi un filon, hein, le found footage, un filon qui a fini par s'épuiser parce que finalement, c'est toujours pareil, quand on exploite à fond un genre, le genre finit par tourner un petit peu en rond et on est toujours sur les mêmes ficelles. Comme tu le disais, ça a coûté très peu d'argent, c'est un petit budget, 1 500 000 dollars, et puis 32 480 000, plus de 32 480 000 dollars de recettes, ce qui est considérable. Le found footage a pour avantage de coûter très peu cher, d'être assez efficace. Et puis, s'il y a un petit peu plus d'effets qui sont liés, je dirais, à une dimension plus gore du film, c'est aussi, et on n'en a pas parlé, il faut en parler, son côté film de zombie, avec beaucoup plus de, bon, bah, par définition, de sang. On pense au film de Romero, il y a beaucoup de clins d'œil au film de Romero, et notamment au personnage, on ne va pas en dire trop, mais au personnage de la petite fille, qui est un personnage zombie. C'est toujours pareil, le thème de l'enfant, l'enfant qui produit la peur, c'est toujours très dérangeant. Là encore, il y aurait beaucoup à dire, hein, le cinéma d'horreur qui transgresse les tabous, et ça c'est un sacré tabou quand même, l'enfant tueur, l'enfant qui s'attaque aux adultes. Donc il y a plus d'effets, ça coûtait un petit peu plus cher, mais évidemment, par rapport à d'autres productions, c'est rien du tout.
Trois suites quand même sur ce rec, hein, plus un remake américain. Est-ce qu'il faut se limiter au premier ou est-ce que les autres valent quand même un petit peu le détour?
Bah, c'est une loi qui est une loi terrible dans les séries horrifiques, hein, dont la qualité décline à mesure que les numéros s'accumulent,
Eh
hein.
oui.
C'est le syndrome des dents de la mer, de Paranormal Activity, de Psychose, enfin, toutes ces sagas horrifiques qui deviennent de plus en plus médiocres, et malheureusement, Rec est frappé par le même syndrome. Alors, le numéro 2 est encore sur le principe du found footage, mais moins intéressant parce que, alors, on reprend les choses là où on les a laissées et on ne va pas dire où s'arrête le film. Mais voilà, le suspense est éventé, les ficelles sont là et elles ne deviennent que des ficelles visibles. Et puis le 3 et le 4 sont encore plus, je dirais, plus périssables. Et puis là, on n'est même plus sur du principe de found footage. Donc là, c'est tout autre chose. On quitte le dispositif initial.
Et puis, dernier point, mais c'est vrai que ça avait marqué pas mal, hein, je revoyais ça dans les informations, c'est la promo, puisque la promo, il n'y a pas de bande-annonce, mais on avait des images de gens et on voyait
Voilà.
leur réaction de peur face au film. Ça, c'est un coup de génie pour le coup.
Ah,
Hein.
ça, c'est habile, c'est une sacrée promotion. Effectivement, plutôt que de montrer certaines images marquantes du film, on montre les visages des spectateurs qui réagissent de façon tout à fait spectaculaire à ce qu'il leur est montré. Et ça, c'est une sacrée idée. Et ça a aussi participé au succès, enfin, en tout cas, l'intérêt qu'a pu susciter le film.
Bon, merci beaucoup, Jérémy.
Merci à toi.
Hein, donc, on va conseiller de voir ce rec et éventuellement ses suites, hein, si vous êtes vraiment au croc ou si vous êtes vraiment curieux. Donc, ce film espagnol de 2007, il est disponible surtout en VOD chez nos camarades de Canal, chez Viva et chez Filmo. Voilà, un certain coup pour le noir. C'est terminé pour aujourd'hui, mais évidemment, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous et à toutes.